parce qu'on croit que vraiment que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la Bible est inspirée de Dieu? Amen. Donc moi, j'y crois. C'est la parole inspirée de Dieu qui peut transformer notre vie. Donc, mais la Bible nous enseigne aussi que qu'est-ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur, c'est accompli. C'est pourquoi on aime faire cette confession. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre dans vos mains. Ou sinon, il y a une feuille que je vous ai donnée à la porte avec presque tous les versets. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. C'est une question très importante et je crois que c'est une question qui vient de l'Esprit. Et j'avais ça vraiment fort dans mon cœur pour ce matin. Et vivez-vous comme un vrai chrétien? Pas une question, n'est-ce pas? Vivez-vous comme un vrai chrétien? Posez-vous la question. Posez pas la question pour votre épouse, pour votre mari. Hein? Commencez pas à penser aux autres, vous connaissez. Le message, c'est pour vous aujourd'hui. Comme on dit, c'est pour moi. Hein? Donc moi, je dois me poser la question. Est-ce que je vis comme un vrai chrétien? Mais premièrement, il faut savoir c'est quoi un chrétien, n'est-ce pas? Afin de pouvoir répondre à la question. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ces derniers jours. Et je crois que nous vivons dans les derniers jours. Les signes des temps sont évidents. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, et on entend les nouvelles, on regarde les nouvelles, et on voit les signes des temps partout. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus dangereux et de plus en plus noir, mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit ceci, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand c'est vraiment noir, c'est là où la lumière fait son effet, n'est-ce pas? Donc, je crois que on ne devrait jamais, en tant qu'enfant de Dieu, être découragé ou épeuré ou effrayé par ce qu'on voit, ce qu'on entend. Au contraire, on devrait prendre cette occasion aujourd'hui à dire, wow, on a devant nous une opportunité de laisser notre lumière luire et briller comme jamais auparavant. Mais pour faire cela, il faut vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et la question encore ce matin, vivez-vous comme un vrai chrétien? Et qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? C'est que, franchement, je vais juste vraiment partager des choses de mon cœur, de mes tripes, si vous voulez, si je peux dire cela à l'Église. Hein? Mais parce que j'ai une passion dans mon âme, dans mon esprit, pour voir l'œuvre de Dieu accomplie dans ma vie personnelle, dans cette église, dans cette province. La vision de cette église, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Et savez-vous quoi? On ne peut pas faire cela si nous ne vivons pas comme des vrais chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est quoi un vrai chrétien? Regardons ce verset dans la parole de Dieu, premièrement, et c'est dans vos notes et c'est sur le PowerPoint aussi. On va lire un verset en Actes chapitre 11 et verset 26 qui est très, très important pour nous aujourd'hui. Et là, on voit des personnes qui cherchaient les apôtres et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés, quoi? Chrétiens. Vous savez que le mot chrétien ne se trouve pas souvent dans la Bible. C'est juste deux, trois fois, je pense, qu'on voit le mot chrétien comme tel. Parce que ici, en Antioche, c'est la première fois que ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui étaient les disciples de Jésus, ont été appelés chrétiens. Et selon qu'est-ce que nous savons, c'était même pas les chrétiens qui ont décidé, oh, on va s'appeler les chrétiens, c'était des non-croyants. C'était les gens de l'extérieur. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus, forcément. C'est eux autres qui ont vu les disciples. Ils ont vu leur style de vie. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne. Ils ont vu le fruit de leur vie. Et ils ont dit, ah, on va les appeler les chrétiens. Et dans un sens, dans quelques cas, c'était presque une critique. Ils se moquaient des personnes. Parce que c'est quoi un chrétien? Le mot chrétien veut dire littéralement un petit Christ. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les gens qui croyaient même pas en Jésus, ils voyaient ce groupe de personnes qui vivaient d'une telle manière qu'ils ont pensé tout de suite à Jésus-Christ. Ils ont dit, oh, mais eux autres, ils se promènent et ils agissent comme des petits Christ. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous courez le risque d'être appelé par votre entourage, d'être appelé un, oh, ce gars-là, il se promène comme un petit Jésus? Parce qu'en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Et eux autres, mais c'est sûr, c'était une critique au début. Mais les chrétiens, dans le fond, de toute évidence, les croyants n'ont pas été trop offensés par l'idée, parce que combien de vous, vous vous considérez comme étant chrétien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent, si quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous êtes chrétien? Vous allez dire, oui, je suis chrétien. Mais est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiens en nom. Oui, je suis chrétien parce que je ne suis pas bouddhiste, parce que je ne suis pas hindou, et parce que je suis venu au monde, au Québec, et parce que mes ancêtres étaient dans la foi chrétienne. Je suis chrétien. Mais c'est pas ça qu'on parle. On parle de ça aujourd'hui. On parle de votre style de vie. Est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Est-ce que, comme le chant disait, dans les années 70, je m'en souviens toujours, il y avait un chant chrétien, en fait, et les paroles étaient quelque chose comme ça. Si vous pourrez être arrêté parce que vous êtes chrétien, est-ce que les gens auraient assez d'évidence? Est-ce que les gens dans votre entourage seraient capables de trouver assez d'évidence pour vous condamner? Est-ce qu'il y a assez d'évidence dans votre vie que vous êtes vraiment chrétien? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais il y a une raison pour cette question. Et on va trouver la raison pour cette question. Et comme je n'ai pas partagé, résistez pas ce matin. Parce que Dieu veut faire une œuvre profonde. Dieu veut qu'on vive comme les vrais chrétiens. Amen. Regardons le prochain verset. Encore, nous voyons ici. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Savez-vous que les premiers chrétiens dans l'Église, dans le premier siècle, les premiers chrétiens, ils étaient pas mal en feu. Vous êtes d'accord? Et à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils se cachaient pas dans le garde-robe quelque part. Ils mettaient pas la lumière sur un boisseau. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient luire la lumière et ça a dérangé le monde. Leur style de vie a dérangé le monde jusqu'au point où quand ils sont arrivés dans les villes, souvent, ils étaient même persécutés ou quoi que ce soit. Mais regarde ici, ils ont dit que ceux qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Donc, est-ce que vous êtes en train de bouleverser votre monde? Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous sommes en train de bouleverser dans le bon sens la ville de Drummondville? Est-ce que nous sommes en train de faire des vagues? Savez-vous quoi? Dieu veut faire des vagues. Allô? Hein? Vous êtes là? C'est bon. Vivez-vous comme un vrai chrétien? Est-ce que vous vivez aujourd'hui comme un petit Christ? Est-ce que votre style de vie est imprégné, si vous voulez, avec le caractère de Jésus-Christ? Est-ce que vos paroles, quand vous parlez, est-ce que les gens pensent Ah, il parle comme Jésus parle. Quand vous agissez dans votre vie, est-ce que les gens disent, ah, lui, il me fait penser à Jésus. Est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Parce que savez-vous quoi? Dieu veut des vrais chrétiens. Amen. Je pense que le monde a vu assez de personnes qui ont fait des choses au nom de Christ qui n'étaient pas vraies. Est-ce que vous êtes d'accord? Combien de fois est-ce qu'on entend parler des hypocrites? Alors, c'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est un acteur. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui va mettre une masque, qui va donner l'apparence d'être une chose, mais en arrière du masque, c'est pas la vérité. Combien de nous, on vient à l'église le dimanche matin, on vient à l'église le mercredi soir, et on dit à tout le monde, je suis chrétien, mais est-ce que nous vivons comme des chrétiens? Est-ce que vous courez le risque d'être appelé un petit Christ par les non-croyants? Bonne question, n'est-ce pas? C'est ça qui s'est passé à Antioche. C'était à Antioche que les croyants, les disciples ont été appelés pour la première fois les chrétiens. Et c'est pas l'église qui a utiliser cette phrase, c'est les non-croyants. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est un vrai chrétien? Quelles sont les caractéristiques d'un vrai chrétien? Je ne veux pas juste vous donner un message ce matin. C'était fort dans mon esprit ce matin. Seigneur, je ne veux pas donner un sermon ce matin. Je refuse, je ne veux pas donner un sermon. Donc, écoutez pas un sermon ce matin. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez le cœur de Dieu. Écoutez l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, le chef de l'Église, la tête du corps, il nous parle ce matin et il nous invite à être les vrais chrétiens. De mener une vie qui est sainte ici sur la terre. De mener une vie qui est différente que la vie des autres autour de nous. C'est quoi un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fréquente l'Église? Est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui lit la Bible à l'occasion? Est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une prière de repentance une fois dans sa vie? C'est quoi un chrétien? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être croyant? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus-Christ? Moi, personnellement, je suis vraiment tanné. Je ne veux pas jouer à l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tannés de voir les gens jouer à l'église? Ce n'est pas un game, Marcel, vous avez raison. On ne veut pas arriver à l'église avec une masque. On donne l'impression qu'on est une chose, mais en réalité, notre vraie vie, c'est une autre chose. Je veux être authentique. Je veux être sincère. Je veux être à 100% changé. Et transformé par la puissance de Dieu. Et vous? Donc, c'est quoi un vrai chrétien? Donc, dans vos notes, je sais qu'il y a quelques notes qui commencent avec le numéro 8, mais ça, c'est juste une faute de l'ordinateur. Mais c'est numéro 1. J'ai 7 points que j'ai dans mon esprit que je veux donner, mais je ne veux pas vous donner ces points comme sur le plan intellectuel. OK, bon, on va remplir la feuille. La feuille, c'est bien, ça peut vous aider, mais je veux pas remplir une feuille ce matin, je veux remplir votre cœur avec la vérité de la parole de Dieu. Je veux que vous receviez, sans résistance, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Mais bien entendu, la première chose qu'on sait, un vrai chrétien est une nouvelle création. Un vrai chrétien, c'est pas quelqu'un qui est religieux, pas quelqu'un qui fréquente une église, comme je dis toujours, tu peux t'asseoir dans une église, venir à l'église 7 jours par semaine, et tu vas pas te transformer et changer et devenir un chrétien. Pas plus que moi, si je vais chez McDo et je passe la nuit, je vais pas devenir un hamburger, comme on dit, n'est-ce pas? Ça se fait pas. Et s'asseoir dans une église, fréquenter une église, même travailler dans une église, ça fait de pas d'une personne un chrétien. Ça fait part d'une personne qui va ressembler à Jésus-Christ. Pour être un vrai chrétien, il faut naître de nouveau. C'est pas les bonnes œuvres qui peuvent vous sauver. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour gagner votre ciel. La seule chose que vous pouvez faire pour devenir un chrétien, pour commencer une vie avec Jésus, c'est de venir à lui avec un cœur repentant et dire, Seigneur, je sais que je suis pécheur. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Et je sais que c'est toi seul qui es capable de me sauver. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Que c'est Dieu qui s'est fait chair et qu'il a pris ma place à la croix du calvaire. Qu'il a été cloué à cette croix. Que son sang a été versé pour me sauver. Et maintenant, Seigneur, je reçois ce sacrifice comme un don gratuit. Et je mets ma confiance en toi. Je n'ai pas confiance dans mes œuvres. J'ai confiance dans ton sacrifice. Et Seigneur, je te donne ma vie. Mais à ce moment-là, savez-vous quoi? Un pécheur qui vient à Jésus par la foi et qui accepte Jésus par la foi, il ne reste pas un pécheur. Il est changé. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez quoi? Ce n'est pas une question de faire partie d'une église ou être membre d'une assemblée particulière. Qu'est-ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais combien de nous sommes des nouvelles créations, mais nous ne vivons pas comme des nouvelles créations? Est-ce que les gens sont capables de voir, ah, c'est une nouvelle personne? Que l'ancienne personne est morte. La nouvelle personne est ressuscitée. Parce que c'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est pas quelqu'un. Laisse-moi juste vous dire ceci. Un vrai chrétien, c'est pas juste un pécheur qui a prié une prière et qui continue à vivre dans le péché. Ça, c'est pas un vrai chrétien. Et on a donné la mauvaise impression. Des fois, on dit, on prêche la grâce, on prêche le pardon. Et on croit à ça. Mais c'est pas juste prier une prière. C'est donner sa vie à Jésus. Et laisser le Saint-Esprit entrer dans son cœur et nous transformer. De prendre le cœur de pierre, de arracher, si vous voulez, le cœur de pierre et de mettre en nous un cœur de chair. Je suis une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. Quand la Bible dit nouvelle création, littéralement dans le grec, c'est une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Je ne suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais avant de recevoir Jésus. Et si vous n'êtes pas une nouvelle création, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Amen. Il y a beaucoup de personnes, on pose la question, combien de vous êtes des chrétiens? Il y a beaucoup qui sont des chrétiens, ils disent, oh, je suis chrétien, je suis croyant, mais non pratiquant. Écoute, ça marche pas. Allô? Des vraies choses aujourd'hui, hein? Jésus lui répondit, en vérité, est-ce que Jésus dit toujours la vérité? Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Savez-vous quoi? Les pécheurs ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Seulement les nouvelles créations peuvent voir le royaume. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Écoute, si vous n'aimez pas ça, c'est pas le pasteur qui a dit, c'est Jésus. On est juste en train de lire les paroles de Jésus. Vous êtes d'accord? Donc, lancez par les pierres. C'est Jésus. Jésus a dit, c'est ici. OK? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, la nouvelle création, c'est la première étape pour être un vrai chrétien. Et sans ça, toutes les autres choses ne vont rien. C'est très clair. C'est quoi un vrai chrétien, numéro 2? Un vrai chrétien est le temple du Saint-Esprit. Un vrai chrétien est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Un vrai chrétien est conscient du fait qu'il est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est un temple? Le temple dans l'Ancien Testament, c'était une bâtisse qui a été construite. Pourquoi? Pour un seul but. Pour faire un culte à Dieu, pour adorer le Dieu vivant et Dieu tout-puissant. Et quand les hommes dans ce temple adoraient Dieu et offraient des sacrifices à Dieu, c'est quoi qui remplissait le temple? L'Esprit de Dieu remplissait le temple. La gloire de Dieu remplissait le temple. Et là, la Bible dit aujourd'hui que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en réalité, Dieu veut remplir tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps de sa présence. Un vrai chrétien est le temple du Saint-Esprit. Regardons le verset. Ne savez-vous pas? Et Paul, il parle aux croyants. Mais dans le contexte de 1 Corinthiens, il parle aux croyants qui sont pas en train de mener une vie trop saine. Des croyants qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui vivent pas convenablement. Et c'est pourquoi il est en train d'amener une correction. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y avait beaucoup de ces chrétiens qui faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire, qui manifestaient pas la présence de l'Esprit dans leur vie, mais qui vivaient selon la chair et les désirs de la chair. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est quoi un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Alléluia! Un vrai chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté en grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre quoi? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Wow, ça c'est une autre chose. Un vrai chrétien appartient à Dieu. Un vrai chrétien a accepté que Jésus a payé un grand prix pour l'acheter. Qu'est-ce qu'il a payé pour vous acheter? Son sang. Et avec son sang, il a acheté chacun de nous. Il a payé pour chacun de nous. Et si on veut avoir la vie éternelle est gratuite, mais la vie éternelle a coûté très cher. Ça a coûté tout. Ça a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Ça a coûté le sang précieux de l'agneau, de Jésus-Christ. Amen. Et même si le salut est gratuit, si je vais recevoir le salut, il y a quand même un échange à faire. Dieu me donne la vie éternelle gratuitement. Et qu'est-ce que je lui donne en retour? Ma vie. Toute ma vie. Mon esprit, mon âme et mon corps. C'est-à-dire que c'est plus à moi de décider qu'est-ce que je vais faire avec mon corps. C'est pas à moi de décider où je vais amener mon corps. Qu'est-ce que je vais toucher avec mon corps? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps? Parce que c'est plus mon corps, c'est son corps. Parce que Jésus l'a acheté. Je suis, si vous voulez, le gérant aujourd'hui de ce corps qui appartient à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que le 100%, est-ce que le Seigneur vous parle ce matin? Allô? Un vrai chrétien est le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi? Remplis de l'Esprit. Donc nous sommes le temple de l'Esprit Saint, mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse remplir de l'Esprit. Quelqu'un qui va être appelé un petit Christ, OK? Va être rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que Jésus a fait des vagues dans sa génération et dans son temps, pendant son ministère? Pourquoi est-ce que Jésus a fait tant de vagues? C'est parce que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Jésus faisait toutes sortes de choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Savez-vous quoi? Le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit, pas un esprit semblable, mais le même esprit, est maintenant en nous et sur nous. Et c'est pourquoi les gens devraient voir le même esprit en nous et on devrait faire le même impact sur notre société que Jésus a fait dans sa société. Alléluia. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On peut parler une semaine là-dessus, mais un vrai chrétien, c'est un homme de l'Esprit, c'est une femme de l'Esprit. C'est pas une personne qui est charnelle, qui se laisse diriger par la chair, les impulses de la chair, mais un vrai chrétien est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Faites attention. Est-ce que je suis en train de dire que si jamais dans votre vie, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, que vous n'êtes pas sauvé, que vous n'irez pas au ciel? Je ne suis pas en train de dire cela. Parce que si vous êtes vraiment né de nouveau, une nouvelle création, vous avez une place réservée pour vous au ciel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas eu la nouvelle naissance, c'est une autre histoire. Mais quand même, la question... C'est subtil. La question aujourd'hui, c'est pas est-ce que vous allez au ciel. La question, c'est est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Malheureusement, je crois, et je peux prouver ça par la Bible, qu'il y a des personnes qui vont peut-être arriver au ciel, mais qui n'auraient pas vécu vraiment comme des vrais chrétiens, mais ils vont perdre toute leur récompense au ciel. Et bibliquement, je pourrais vous montrer ça en 1 Corinthiens chapitre 3. Des gens qui vont être sauvés, mais comme ceux qui échappent dans le feu. Mais moi, je ne veux pas être comme ça. Je veux être quelqu'un qui arrive au ciel après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Et, ne faites pas attention, quelqu'un qui vit comme le diable toute sa vie, moi, j'aurais quand même des questions, des points d'interrogation. Est-ce qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Quelqu'un qui fait une prière, dit « Ok Seigneur, sauve-moi » et puis il continue le restant de sa vie à vivre comme il a toujours vécu. Il faut se poser la question, est-ce qu'il a eu une vraie repentance? Est-ce qu'il a vraiment mis sa confiance en Jésus comme sauveur et Seigneur et Maître? Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Allô? On dit des vraies choses ce matin. Pourquoi? Parce que je vous aime. Et parce que j'aime Jésus, parce que moi-même, je veux examiner ma vie. Je veux vivre comme un vrai chrétien. Je veux que vous viviez comme un vrai chrétien. Savez-vous quoi? Si on commence à vivre comme des vrais chrétiens, oh, wow! On va avoir le fun. On va voir les âmes venir à Jésus. Je vous assure, on n'aura plus de place dans cette église ici. On va voir l'église grandir. On va probablement voir aussi des personnes mécontentes qui vont nous critiquer, se moquer de nous et « Oh, pour qui est-ce qu'ils se prennent aussi? » Mais ça va de pair avec notre mandat, n'est-ce pas? La Bible dit clairement, tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés, la Bible dit. Il faut dire les vraies choses, OK? Puis, troisième chose, un vrai chrétien deviennent conformes à l'image de Jésus. Un vrai chrétien devient conforme à l'image de Jésus. Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Savez-vous que vous êtes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus? Et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être semblable à l'image de Jésus? Savez-vous que Dieu veut que vous soyez semblable à Jésus? Oui. Il veut que vous soyez conforme à son image. Encore, je parle aux enfants autant que les adultes. Dieu veut que vous soyez comme Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on entend ça. Il veut qu'on soit conforme à l'image de Jésus. Et, oh, ça veut dire que j'ai besoin de mettre une robe et les sandales et pousser un barbe et parler comme je vois dans les films, les acteurs qui font dans les films. Laisse-moi vous dire, je suis convaincu qu'il n'y a pas un acteur sur la planète qui a vraiment fait un bon job de jouer le rôle de Jésus. Souvent, il a toujours l'air un peu féminin. Non, je pense pas. Jésus était un vrai homme. Jésus était assez tough, vous êtes d'accord? Un charpentier. Mais quand on parle d'être conforme à l'image de Jésus, on ne parle pas d'être conforme à le mode ou la façon qu'il s'habillait. Mais qu'est-ce qu'on parle? On parle de son caractère, sa nature, sa personnalité. On parle du fruit de l'esprit qui a été manifesté dans sa vie et qui doit être manifesté dans ma vie aussi. On parle de l'amour de Dieu. Éphésiens 5, 1 et 2, puisque vous êtes les enfants de Dieu, efforcez-vous comme d'être comme lui. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Efforcez-vous d'être comme lui. C'est pas bon qu'il vous dise cela, c'est le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul qui a dit ça aux Éphésiens et ça s'applique à nous aujourd'hui. Encore, montre-moi votre main si vous êtes enfant de Dieu. Voici votre instruction de la parole de Dieu. Efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Donc, comment est-ce que je peux être conforme à l'image de Dieu? Plus je marche dans l'amour, plus je suis comme Jésus. Écoute, portez une robe si tu veux, mettez des sandales si vous voulez, mais si vous voulez vraiment être comme Jésus, donnez votre vie pour les autres. Messieurs, donnez votre vie pour votre épouse. Soyez prêts à mourir pour elle. Servez votre épouse. Mesdames, honorez votre mari. Aimez-le. Et voyez-vous, sachez qu'est-ce que ça veut dire d'être conforme à l'image de Jésus-Christ, d'avoir le même caractère, tout le fruit de l'esprit en manifestation. L'amour, la patience, la joie, la bénignité, tout le fruit de l'esprit qu'on voit en Galates 5, 22. Donc, numéro 4, un vrai chrétien est mort au péché. Un vrai chrétien est mort au péché. C'est silencieux ici. Alléluia. Donc, pensez pas à votre épouse, votre mari, votre voisin, votre patron, votre pasteur. Pensez pas à personne d'autre. Pensez à vous-même. Un vrai chrétien est mort au péché. Galates 5, 24 dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Un vrai chrétien, quelqu'un qui va donner le témoignage dans son entourage que, oh, lui, il me fait penser à Jésus. Lui, c'est un petit Christ. Lui, c'est un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui est mort au péché. Encore, je ne suis pas en train de prêcher un message de condamnation ce matin, mais je suis en train de prêcher un message de repentance. Je ne veux pas que vous vous sentiez condamné, culpabilisé pour les luttes que vous avez, parce que je sais que nous sommes tous en route. Nous cheminons avec Dieu, n'est-ce pas? Et des fois, vous avez des luttes et les choses dans votre vie que vous avez besoin de mettre en ordre et de régler, et ça prend du temps. Et ça prend la puissance de l'esprit. Mais savez-vous, il y a une grande différence entre lutter avec une faiblesse de la chair et révolter volontairement et vivre continuellement dans le péché. Deux choses différentes. Et souvent, souvent, comme j'ai dit aux étudiants à l'école biblique hier, aujourd'hui dans les églises, on parle plus de péché, on parle de problème. Or lui, il a un problème avec la pornographie. Il a un problème avec ça. Il est malade ou il est accroché, il est accro, donc il a une dépendance. Dites qu'est-ce que vous voulez, dépendance, accrochage. C'est un péché. Et qu'est-ce qu'on fait avec un péché? On se repent, n'est-ce pas? Et on demande à Dieu de nous donner la force nécessaire. Et ça, c'est juste un exemple. Mais la liste est longue. Ça peut être l'inquiétude aussi. Ça peut être un esprit de critique, une personne qui a une tendance à parler dans le dos d'une autre personne. Laisse-moi vous dire, oh, mais lui, il a un problème, il est un peu négatif. Non, c'est pas juste un problème, c'est un péché, c'est pas... Vous savez c'est quoi un péché? Le mot péché veut dire de manquer le cible, la cible. Dieu a mis en cible la sainteté, c'est là on est supposé d'aller. Ça, c'est le but à atteindre. Mais quand on n'atteint pas le but, quand éloigné du but, on pêche. Et le but que Dieu nous a établi, c'est quand même la sainteté, n'est-ce pas? Allô? Galates 2:20, regarde qu'est-ce que Paul a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de problèmes dans les églises avec les problèmes, les dépendances, les péchés? Il y a une grande partie du problème, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à mourir. Allô? Aussi longtemps que vous voulez rester attaché à votre vieille vie et vous n'êtes pas prêt à 100%, si vous n'avez pas la volonté de dire « Ok, Seigneur, je suis prêt à couper complètement et brûler le pont en arrière. Je suis prêt à mourir à l'ancienne vie. » Aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à mourir à l'ancienne vie, vous allez toujours lutter avec le péché. Écoute, c'est pas moi qui a inventé ces choses que je dis ce matin. C'est la Bible. Je vous lis la sainte parole de Dieu. Et on a développé une culture qui est faux. Et malheureusement, il y a toute une société, une culture chrétienne, si vous voulez, qui n'ont pas compris c'est quoi d'être un vrai chrétien. Et pour eux, être chrétien, c'est juste aller vous asseoir dans une église et peut-être faire une prière pour dire « Oh oui, Seigneur, je donne ma vie à toi. » Mais après ça, lundi au samedi, on vit comme on a toujours vécu, dans le péché. Et puis, on vient dans l'église. « Oh, pardonne-moi, Seigneur. » C'est pas ça, la vie, la vraie vie chrétienne. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Et savez-vous quoi? Ça prend l'aide de Dieu pour vivre une vraie vie chrétienne aussi. Jésus a dit ceci en Luc 9, 23. Puis, il dit à tous. Il a dit ça à qui? À qui? Maintenant, dis à ton voisin, il parle à moi. Maintenant, vous pouvez dire, il parle à vous aussi. Puis, il dit à tous, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Si vous êtes quelqu'un, levez la main. Bon, voyez-vous, à qui est-ce que cette parole est adressée? À tous et à quelqu'un. Donc, c'est à la fois général et personnel. La vie chrétienne, c'est ça le problème. Avec beaucoup de personnes, ils ont reçu dans leur tête le concept de la vie chrétienne d'une façon générale. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est mort à la croix pour les péchés de tout le monde. Mais est-ce que vous êtes convaincu qu'il est mort sur la croix pour vos péchés? Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir comme votre Seigneur et votre Maître? Bonne question, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre Jésus? Il y a une condition. C'est quand même conditionnel. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa et qu'il me suive. C'est-à-dire que si je veux être un vrai chrétien, c'est plus moi le boss. C'est plus moi qui mène, c'est Jésus qui mène. Et si je vais laisser Jésus faire son œuvre dans ma vie, il faut que je meure au péché. Toutes les choses que je fais dans le passé, c'est mort. Crucifié avec Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et savez-vous, c'est bon. L'apôtre Paul a dit cela. Paul, n'oubliez pas qu'avant d'être chrétien, qu'est-ce que Paul faisait? Il était un chasseur de chrétiens. Il tuait littéralement les chrétiens. Il mettait les chrétiens en prison. Il persécutait, il torturait les chrétiens. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, il est devenu un petit Christ, sa vie a été complètement changée. Une nouvelle création maintenant. Les choses anciennes sont passées. Et Paul était capable d'écrire quelque chose en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, je pense, si je ne me trompe pas. Il dit, préparez pour vous, je paraphrase, une place dans votre cœur pour moi. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Excusez-moi, Saul de Tarse. Imaginez, vous êtes parenté avec une de ses victimes. Hein? Peut-être vous êtes le frère ou la sœur ou la femme d'une personne qui a été tuée par Saul de Tarse. Et là, tu lis, des années après, qu'il dit, « Oh, nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. » Qu'est-ce que tu vas dire? Menteur! Tu as tué mon mari. Tu as mis mon frère en prison. Comment est-ce que tu peux dire que tu n'as fait tort à personne? Parce que l'ancien homme qu'il était avant, Saul de Tarse, est mort. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est pourquoi il pouvait le dire. Donc, voyez-vous, et trop souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est une séduction, on se trompe soi-même, souvent on veut avoir le meilleur des deux mondes. On veut avoir une vie nouvelle en Jésus, mais sans lâcher prise complètement de l'ancienne vie. C'est-à-dire, on veut laisser Jésus, tu peux prendre toute la condamnation et toutes les conséquences de mes péchés. Prends ça, mais laisse-moi la joie de mes péchés et le plaisir de mes péchés. C'est comme Jésus qui a chassé le démon de démoniaque, une légion de démons, et ils sont allés dans les portes. Vous vous rappelez de l'histoire? Cet homme était tellement violent, il était une menace, il était un problème pour tout le village, et Jésus a réglé le problème. Il a chassé les démons, mais savez-vous quoi? Quand les pourceaux, les cochons se sont précipités, ils sont morts, les gens ont dit, oh, Jésus, ils ont supplié à Jésus de quitter le territoire. C'est comme, règle mon problème, mais touche pas mes cochons. Et ça, c'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien dit, Seigneur, règle mes problèmes et prends mes cochons. J'en veux plus. Amen. Donc, on est rendu à numéro 5. Un vrai chrétien vit comme un citoyen du ciel. Est-ce que vous êtes là? Un vrai chrétien vit comme un citoyen du ciel. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes différents. Regardons le verset. Ce verset est puissant. Préparez-vous. Rappelez-vous de ce que Jeanette a dit. Résistez pas à la vérité de ce verset. Qu'est-ce que le verset de la parole de Dieu dit? Car il y en a et plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Combien de vous, vous voulez être un ennemi de Christ? Personne. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ceux qui font leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On va arrêter là, juste pour une minute. Quelles sont les caractéristiques d'un ennemi de la croix de Jésus-Christ? C'est une personne, pour lui, son Dieu, c'est son ventre. Il est charnel. La seule chose qui est importante pour lui, c'est le plaisir. Il vit pour le plaisir. Seulement. Est-ce que Dieu est contre le plaisir? Non! Regardez-moi. Dieu a créé toutes choses, en Timothée 6, pour notre plaisir. Pourquoi est-ce que les fraises sont tellement juteuses et délicieuses? Parce que Dieu est bon. Et il veut nous bénir. Il veut nous donner du plaisir. Hein? La relation sexuelle dans le mariage, c'est Dieu qui a créé cette idée. C'était son idée à lui. Vous savez?
Bon.
Dieu veut! C'est bon! Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est l'ennemi qui l'a perverti. Et la sexualité hors du mariage, c'est comme un feu. Un feu dans le foyer, ça peut chauffer la maison, c'est merveilleux, c'est super agréable, mais on prend le même feu qui est dans le foyer, on le met sur le tapis au milieu du salon, et le même feu va brûler la maison. même feu qui réchauffe et qui est une source de joie et de plaisir peut devenir une source de mort et de destruction. Donc Dieu n'est pas contre le plaisir, mais des gens qui sont les ennemis de Christ, ils ne vivent que pour le plaisir. Ils s'en fichent de Dieu. Ils vont chercher à n'importe quel prix à se satisfaire aux impulses de la chair. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et c'est quoi l'autre chose? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Combien de fois aujourd'hui, on voit les personnes qui se vantent. Ah, je ne sais pas si je devrais le dire. Peut-être je devrais le dire. Peut-être pas. Peut-être oui. Hein? C'est comme je viens de lire juste hier, je vais le dire. OK? Je vais juste vous donner une histoire sans commentaire. Objectif. Je vais juste vous donner les faits et faites votre propre interprétation. OK? Le auteur des romans, Harry Potter. Vous connaissez les livres de Harry Potter? Je ne les conseille pas. Mais l'auteur de ces livres, elle vient de faire un speech devant une grande foule de personnes. Et puis, elle parlait d'un de ses caractères dans son livre. Elle vient de dévoiler que dans sa tête, dans sa pensée, cette personnage était gay. OK? Et tout le monde, au début, a entendu ça. Ils ont été silencieux. Et tout d'un coup, tout le monde a commencé à applaudir. Toute la foule applaudissait. Je ne fais pas de commentaires. Dieu aime tout le monde. Au cas où que quelqu'un pourrait penser qu'il y a de la haine dans cette église, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Et tout le monde, tous les pécheurs, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes la bienvenue ici parce que Dieu vous aime et il veut vous changer, il veut vous transformer. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Pourquoi? Parce que le péché finit par nous faire mal. Est-ce que vous êtes là? Numéro 6. Non, j'ai pas terminé. C'est bon. Les ennemis de la croix, leur Dieu, c'est leur ventre. Eux autres, ils se vantent des choses qui devraient leur faire honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Combien de vous ont eu une belle réflexion juste cette semaine à propos de l'éternité ou à propos du ciel ou à propos de la vie après la mort? Ou est-ce que votre vie a été complètement, à 100%, consommée par les pensées terrestres? Un vrai chrétien ne pense pas seulement à la vie terrestre. Un vrai chrétien pense aussi à la vie céleste. Et un vrai chrétien sait que sa vie sur la terre est temporaire. Et qu'est-ce que je fais ici pour cette courte période de temps va déterminer mon éternité. Ça, c'est un vrai chrétien. 19, verset 19, là-dedans, « Leur fin sera la perdition. » Oh non, verset 20. Mais notre cité à nous, regardons ceci, « Mais notre cité à nous est où? Est dans les cieux. » Moi, je suis vraiment des lois, mais dans le fond, je suis, comment est-ce qu'on dirait ça? Paradisois? Ciellois? Je suis enfant de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu. Et vous? Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc un vrai chrétien vit comme un citoyen du ciel. Numéro 6, un vrai chrétien fait les œuvres de Jésus. Moi, je veux que les gens disent, « Ah, il me fait penser à Jésus. Oh, les petits Christ se promènent à Drummondville. » C'est ça qui s'est passé à Antioche. À Antioche. Et laisse-moi vous dire, l'église à Antioche, c'est là où le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul a commencé. C'était à Antioche. C'était à partir d'Antioche que le monde a vraiment commencé à être évangélisé à fond. Regardons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Laisse-moi voir votre main si vous croyez en Jésus. OK? Voici qu'est-ce que Jésus dit à propos de vous. Nous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, vous croyez en lui, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Regardons Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Laisse-moi vous dire. Autrefois, j'ai vu des... comment est-ce qu'on appelle ça, un bumper sticker sur les autos, un autocollant sur le bumper d'une auto? C'est marqué, les chrétiens ne sont pas parfaits, juste pardonnés. Et dans un sens, il y a une partie de... Les chrétiens ne sont pas parfaits encore, vous êtes d'accord? Mais dire que les chrétiens sont juste pardonnés, c'est loin de la vérité. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés. Si on lit Romains 8, on a une longue liste de choses que nous sommes, n'est-ce pas? Et selon la Bible, on n'est pas supposé de vivre juste comme des hommes naturels, on est supposé de vivre comme des hommes surnaturels, n'est-ce pas? Alors, moi, encore, la question, c'est pas est-ce que vous allez au ciel? La question, c'est est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Et Jésus, il veut les vrais chrétiens à Drummondville. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire du progrès dans notre foi. Nous avons besoin de s'avancer et de s'approcher de Dieu et de laisser Dieu se servir de nous comme les outils, comme pour que nos mains soient ses mains, pour que nos bouches soient sa bouche. Amen. Pour qu'on fasse les mêmes œuvres que Jésus a faites. Trop souvent, on dit, oh, mais ça, c'était Jésus. On voit les miracles dans la Bible, on dit, oh, c'est Jésus. Mais regardez bien, regardez les actes des apôtres, c'est pas Jésus, c'est les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de vous avez cru? Si vous avez cru, attendez-vous à avoir des signes vous accompagner. Numéro 7, un vrai chrétien obéit à la volonté de Dieu. Et on va terminer avec ce point, parce que c'est peut-être le point le plus important. Et voici le problème. J'ai failli pas donner une feuille ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, le dernier blanc est rempli. Sermon est terminé. C'est pas un sermon aujourd'hui. C'est un message du cœur de Dieu. Dieu nous appelle à être les vrais chrétiens. Et pour être un vrai chrétien, il faut obéir. Regardons le verset. Encore, c'est Jésus qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que vous écoutez ce matin? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je vais le dire encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Combien de personnes pensent être chrétiens aujourd'hui à Drummondville, mais en réalité, ils ne sont pas des vrais chrétiens? Combien de personnes pensent qu'ils vont aller au ciel? Mais en réalité, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Savez-vous, même toutes ces choses-là, ça ne compte pas pour grand-chose. Regarde bien, si on n'a pas fait la volonté de Dieu. Verset 23, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, quoi? Connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est les paroles de Jésus ce matin, n'est-ce pas? Savez-vous, un vrai chrétien connaît Jésus. Un vrai chrétien est en amour avec Jésus. Un vrai chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui veut une police d'assurance feu. Je veux pas aller à l'enfer, donc Seigneur, je vais prier une prière. Prends mes problèmes, laisse-moi mes cochons. un vrai chrétien veut faire la volonté du Père. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, est-ce que vous entendez les paroles que Jésus vient de dire là? Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que votre vie est posée et fondée sur le roc ce matin? Vivez-vous comme un vrai chrétien? Il y a un dernier verset que j'ai mis dans vos notes. Je pense que ça démontre jusqu'à quel point c'est sérieux. Quand il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Savez-vous quoi? Jésus va apparaître un jour avec les anges de sa puissance. J'y crois. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il revient avec ses anges de puissance? Mais qu'est-ce qu'il va faire au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus? Avez-vous vu ici jusqu'à quel point il est important d'obéir à l'évangile? Si on continue ce verset, ils auront pour chaque main une éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là. Regardons, voici notre job. Glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru quand notre témoignage auprès de vous a été cru. Jésus revient. Il y a deux catégories de personnes seulement qu'il va trouver sur la terre. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile. Et ces personnes ont la ruine éternelle, une ruine éternelle et un châtiment éternel. Mais pour l'autre groupe de personnes, nous qui avons cru à ce témoignage, nous qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, nous qui sommes les nouvelles créations et qui, nous qui vivons comme des vrais chrétiens, nous allons, Jésus va être glorifié en nous et nous allons admirer celui qui nous a sauvés. Est-ce que vous avez hâte de ce jour? Le jour qu'on va voir Jésus et finalement on va être capable de flécher les genoux devant lui et « Seigneur, c'est toi seul qui es digne. C'est toi qui m'as rendu capable de vivre comme un vrai chrétien. C'est toi qui m'as donné une nouvelle vie, une nouvelle force. C'est toi qui as fait de moi le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui m'as rendu capable de faire les œuvres de Jésus. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » Et même les couronnes que nous allons recevoir, la Bible dit que tout le monde au ciel, au moment donné, va prendre les couronnes, les récompenses. Et nous allons jeter ces couronnes aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre force de volonté qui fait en sorte qu'on peut vivre comme un vrai chrétien. C'est l'action de l'Esprit Saint. C'est sa force, sa parole, sa puissance à nous. Donc, Tania, si tu peux venir, on va prier ce matin. Est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu ce matin à travers sa parole? Le message, ce n'est pas pour tout le monde seulement ce matin. Le message est pour vous. Est-ce que vous vivez comme un vrai chrétien? Le but, ce n'est pas d'amener la condamnation. Le but, c'est de vous inspirer à vous repentir. Si votre vie n'est pas en ligne avec les 7 principes qu'on vient de voir aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. La première chose qu'on a vue, c'est la chose la plus importante. Un vrai chrétien, c'est une nouvelle création. En fait, on a commencé et on a terminé avec les deux points plus importants. Parce que un vrai chrétien, c'est une nouvelle création, mais pour devenir une nouvelle création, il faut obéir à l'Évangile. Comment est-ce qu'on peut obéir à l'Évangile? Je l'ai déjà dit pendant le message. On s'approche de Dieu. On avoue, on reconnaît que nous sommes pécheurs, sans force, sans la capacité de se sauver soi-même. Et on se repent. Se repentir, mais ça veut dire de tourner de bord. Si je marche dans le mauvais sens et je me repens, je tourne. Si je marchais avec le diable et avec le monde et je faisais mes propres désirs et je me repens, et là je vais suivre Jésus. Seigneur, c'est une nouvelle vie. Je laisse en arrière de moi un homme mort. Mon ancien homme crucifié avec Jésus-Christ. Il n'existe plus. C'est Christ qui vit à moi maintenant. Donc, je vous offre aujourd'hui, si vous êtes là, vous n'avez jamais fait le premier pas de recevoir Jésus-Christ, je vous donne cette occasion aujourd'hui. Je vous donne l'occasion ce matin de prendre le premier pas d'obéissance à l'Évangile. Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Écoutez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. » Donc ce matin, je vous lance l'invitation. Pensez pas à qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce qu'ils vont dire. Je m'en fiche. La seule personne qui compte, c'est Jésus. Donc ce matin, je vous invite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas l'assurance. Si vous quittez le bâtiment aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, vous êtes mort. Savez-vous sans aucun doute que vous allez au ciel? Et si le Seigneur demande, pourquoi est-ce que je devrais vous laisser entrer au ciel? Qu'est-ce que vous répondrez? Mais parce que j'étais gentil, parce que j'allais à l'église, parce que je lisais ma Bible, parce que je priais des fois, ça compte pas. La seule réponse qui est acceptable pour aller au ciel, c'est que c'est parce que je suis une nouvelle création, parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai donné ma vie à Jésus à 100% et j'ai reçu sa vie en moi à 100%. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, je vais juste compter à trois, et si vous voulez donner votre vie à Jésus et vous voulez confesser Jésus devant les autres, être sûr et certain, sans aucun doute, que vous êtes sauvé ce matin. Juste lever la main haut dans l'air quand je compte à trois. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Quelqu'un? Moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de le faire. Mais, c'est votre choix. Alléluia. Moi, je vais être compté parmi ceux qui vont admirer Jésus à son retour. Pas ceux qui ont rejeté ou désobéi à l'Évangile. Peut-être que le monde ici l'a déjà fait, je ne sais pas. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lever la main? Sinon, je parle, et dans le fond, le message aujourd'hui, c'était surtout et avant tout pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je le savais dans mon esprit ce matin que Dieu nous lance encore l'invitation. Combien de vous voulez vivre comme un vrai chrétien? Moi, les deux mains dans l'air. Les deux mains dans l'air. Avec les mains dans l'air, on va prier cette prière. Père Céleste, tu connais mon cœur. Et je veux te suivre. Je veux être un vrai chrétien. Je veux que les gens voient ton esprit, ta nature, ton caractère, tes œuvres dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi, à rester branché à toi, à obéir à ta parole, à te remplir de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.